ce matin, Jésus. 주의 성, 주의 성, 주의 성, je désire te voir, 주의 성, 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 je désire te voir, je désire, je désire te voir, une dernière fois je désire, je désire te voir. Oui Seigneur, parce que je suis émerveillé par ta présence, je veux te voir, je veux que tu puisses te glorifier, oh, ce matin, comme tu le fais tous les jours, Seigneur. Parle-nous, oh Dieu de grâce, toi qui vis à jamais. Émerveillé en ta présence, rien ne t'est impossible. Émerveillé en ta présence, ta joie me remplit d'espérance. Émerveillé, émerveillé en ta présence, rien ne t'est impossible. Émerveillé, émerveillé en ta présence, ta joie me remplit d'espérance. Il n'y a personne, il n'y a personne comme toi, Jésus. Personne n'est comme toi sur toute la terre, sur toute la terre. Il n'y a personne comme toi, Jésus. Personne n'est comme toi, tu fais de grandes choses. Tes œuvres sont glorieuses, toi le Dieu fidèle, puissant est ton nom. Tu fais de grandes choses. Tes œuvres sont glorieuses, toi le Dieu fidèle, puissant est ton nom. Émerveillé, émerveillé en ta présence, oui, rien, rien ne t'est impossible. Émerveillé, émerveillé en ta présence, ta joie me remplit d'espérance. Il n'y a personne, il n'y a personne comme toi, Jésus, Jésus. Personne n'est comme toi sur toute la terre, sur toute la terre. Il n'y a personne comme toi, Jésus, Jésus. Personne sont glorieuses, toi le Dieu fidèle, puissant est ton nom. Oh, tu fais de grandes choses. Tes œuvres sont glorieuses, toi le Dieu fidèle, puissant est ton nom. Et nous chantons. Alléluia, alléluia, alléluia. Toi, Seigneur, sois élevé. Nous t'élevons, nous t'adorons, Jésus. Merci pour le souffle de vie ce matin. Adorons le Seigneur. Élevons la voix, adorons tous ensemble. Oh, gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Jésus.
C'est ce que tu es.
es là. Et quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu agiras encore. Et quand je ne le vois pas, tu es là. Et quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu agiras encore.
Est-ce qu'on peut encore fermer les yeux ensemble? Peut-être on est là, peut-être on vit des moments où on a l'impression que Dieu est absent, qu'on ne ressent plus rien intérieurement, qu'il n'y a pas de... On ne vit plus de moments où on a des frissons, des moments où on est vraiment encouragé par ce qu'on ressent, mais Jésus est là quand même. On l'a chanté, même quand je ne le vois pas, il est là. Même quand je ne le sens pas, il est là. Même quand je traverse un désert, il est là. Même quand je souffre, il est là. Et là, tu peux prendre la situation, la souffrance en train de vivre et dire, même quand je vis ça, même quand je vis ceci, il est là. Il est présent. Et même quand je vis ça, il est suffisant pour moi. Est-ce qu'on peut juste prendre encore 30 secondes pour lever Dieu et dire, Seigneur, t'es plus grand que ma souffrance actuelle. Seigneur, t'es plus grand que mes doutes actuels. Seigneur, t'es plus grand, Seigneur, que toutes les questions sans réponse que j'ai en ce moment. Ce que je sais, c'est que t'es là. C'est que t'es fidèle. T'es fidèle dans mon couple, dans mon mariage, t'es fidèle dans ma famille, dans mon travail, t'es fidèle dans la souffrance que je vis, dans ma solitude que je vis, t'es fidèle dans tous les défis que j'ai devant moi. Merci pour le Dieu que tu es. Merci pour le Dieu qui me comprend et qui souffre avec moi et qui m'encourage et qui me permet d'avancer malgré le désert, malgré l'obscurité, malgré tout ce qui se passe dans ce monde. Merci pour le prince de paix que tu es. Amen.
Un chemin au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Oui, tu traces un chemin au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es, c'est ce que
ensemble, c'est ce que tu es, c'est ce que tu es, c'est ce que tu es, c'est ce que tu es. Oui, tu es le Dieu admirable, tu es le Dieu inébranlable, incomparable. Nous voulons une fois de plus te louer, Seigneur, nous voulons une fois de plus t'élever. Gloire à toi, ô roi des rois.
Tu transformes l'eau en vin. Toucha les yeux de ta main, nul n'est comme toi, comme toi. Dans nos ténèbres tu vis, tu nous redonnes la vie, le Dieu. Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance. Dieu de miracles, incomparable, ô Dieu, ô Dieu.
Dans nos ténèbres,
tu brilles, tu nous redonnes la vie, nul n'est comme toi, comme toi, Dieu. Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance, Dieu de miracles, incomparable, ô Dieu. Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Qui sera contre nous? Dieu de miracles, incomparable, ô Dieu, ô Dieu, ô Dieu. Si notre Dieu, si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Contre nous, Dieu admirable, inébranlable, incomparable, tu es le Dieu.
Chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahweh. Louez, 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 louez le roi, criez roi des rois.
Roi des rois.
Si vous aimez Jésus, criez Jésus.
Jésus.
Si vous aimez le roi, criez roi des rois.
Roi
son
des
nom
rois.
C'est Jésus.
C'est Jésus.
C'est Jésus.
C'est Jésus.
Le roi des rois.
Le roi des rois.
Le roi des rois.
Roi
son
des
nom
rois.
C'est Jésus.
Jésus.
C'est Jésus. Du Seigneur, vous allez suivre mes pas. Quand je vais dire en bas, à gauche, à droite, devant, derrière, on va faire ensemble. Ok, est-ce qu'on est prêt? On va y aller. Est-ce qu'on est prêt? On y va. 1, 2, 3, 4. Tout le monde va louer, tout le monde va danser, tout le monde va bouger, tout le monde va danser. À gauche, à droite. À gauche, à droite, devant, derrière, tout le monde. À gauche, à droite, devant, derrière, devant, et après on tourne. Hey, on tourne, on tourne, hey, on tourne, on tourne, on tourne, on tourne, on tourne, et après on saute. On saute, 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 et puis on danse, on danse, on danse. On danse, on danse, on danse, on danse, on danse, on danse. Hey, est-ce qu'on est fatigué?
On n'est pas fatigué.
Est-ce qu'on est fatigué?
On n'est pas fatigué.
Est-ce qu'on est fatigué?
On n'est pas fatigué.
Est-ce qu'on est fatigué? Allez, on reprend. Tout le monde va bouger, tout le monde va danser, tout le monde va bouger, tout le monde va danser. À gauche, à droite. À gauche, à droite, devant, derrière, on reprend à dos, à droite, à gauche, à droite, devant, derrière, et puis on tourne, 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 et puis on saute, hey, on saute, on saute, on saute, on saute, on saute, et après on danse, on danse. On continue à danser les amis. Quand je vais compter 1, 2, 3, 4, on va arrêter. On va le faire tous ensemble. On continue à danser. On se tient prêt. Eh, eh, eh. Eh, eh, eh. Eh, eh, eh. 1, 2, 3, 4. Wouh! Gloire à toi Seigneur. Gloire à toi.
Wow! Je pense que si on avait des doutes sur le fait que Dieu est un Dieu de joie, là, les doutes sont partis. Amen. Ouh. Attendez, je reprends un petit peu mon souffle. D'habitude, le dimanche, je fais pas de sport, donc... Bienvenue, tout le monde. Content de vous accueillir à l'EPI. Et d'ailleurs, pour ceux qui sont là pour la première fois, bienvenue. Et ça présente bien un petit peu la vie qu'il y a avec Dieu, je pense. La vie avec Dieu, c'est parfois, il y a des moments... On le sent pas, mais il est quand même là. Et parfois, il y a des moments de joie aussi où on a envie de danser, on a envie de l'exprimer. Et ce matin, si vous connaissez pas Dieu, juste vous dire, Dieu est un Dieu de joie. Et il veut te rendre heureux aussi. Et on va parler, et puis il y aura un message basé sur la Bible qui parle de Dieu, qui parle de Jésus, de ce que Jésus a fait pour nous, justement. Mais avant ça, quelques petites annonces. En fait, juste une annonce qui parle d'une période que moi, j'affectionne particulièrement. C'est la période de novembre. Non, je rigole. Noël. Ok, Noël, qui aime la période de Noël? Ok, on y arrive, on est quoi hein? Un mois à peu près, un mois, une semaine de Noël. Et une date à mettre à votre agenda, le dimanche 3 décembre. Répétez après moi, dimanche 3. Ok, il y aura l'EPI qui fait son marché. Et si vous avez jamais participé, je pense que la plupart vous connaissez, mais en fait c'est l'occasion idéale pour trouver un cadeau, pour avoir une idée de cadeau à offrir à quelqu'un, à un proche, un collègue, un ami, pour rendre heureux quelqu'un. Il y aura des vêtements, il y aura de la nourriture, il y aura des livres, justement pour encourager notre foi, pour présenter c'est quoi le vrai sens de Noël aussi. Donc il y aura tout ça le dimanche 3 décembre dans le hall. Vous verrez, ce sera comme un petit marché, ce sera vraiment incroyable. Et aussi, toutes les ventes iront directement à l'association Enjeu. Enjeu, c'est une association qui vient en aide à plus de 100 personnes par mois qui sont démunies, qui sont dans le besoin et qui aussi envoient des missionnaires, en tout cas soutiennent des missionnaires à travers le monde pour aller dans des endroits là où vraiment il y a des défis, il y a des challenges. pour présenter l'amour de Dieu à ceux qui en ont besoin. On en a tous besoin, mais il y a vraiment des endroits où il y a une mission, il y a un défi particulier. Donc n'hésitez pas à venir. En plus, on prend la carte bancaire maintenant, donc plus d'excuses. Ah, j'ai pas de liquide sur moi. Non, on peut vraiment soutenir. On peut faire plaisir à quelqu'un. On peut se faire plaisir soi-même en achetant. Et en plus, on envoie aussi des financements pour ceux qui sont en mission. Donc tout le monde est gagnant. C'est le 3-in-1, ok? Et je parle pas de l'auto ici, c'est vraiment le, ok? C'est vraiment du concret, on fait une différence dans le royaume de Dieu. Donc, 3 décembre, le dimanche 3 décembre, dans le hall, à l'EPI, pour soutenir quelqu'un et pour soutenir l'association en jeu. C'était ma seule annonce, donc je vais inviter maintenant Michel, qui va nous partager un message qu'il a sur le cœur. Je pense que c'est vraiment une thématique qui va tous nous rejoindre, qu'on n'aime pas trop traverser, mais en tout cas, je le laisse présenter. Je vais juste prier pour toi, Michel, pour que Dieu parle à travers son message ce matin. Seigneur, merci pour ce moment. Merci parce que tu es un Dieu de joie. Tu es un Dieu qui vient nous faire du bien, qui nous encourage. Tu es un Dieu qui veut aussi nous parler. Et je te prie de parler à travers Michel ce matin. Que ses mots soient tes mots, Seigneur. Qu'on puisse avoir un cœur ouvert et recevoir tout ce que tu veux nous dire ce matin. Au nom de Jésus. Amen.
Amen. Merci beaucoup, Jérôme. J'ai essayé de suivre Betty tout à l'heure, là, quand elle dansait. Un grand merci à l'équipe de louanges de nous avoir conduits ce matin dans le chant. Je profite de ces quelques instants pour affiner le réglage. Sachez que nous avons vécu un moment avec la famille de Marguerite Mahler cette semaine. Marguerite Mahler était la doyenne de l'église de l'EPI, 99 ans. Au mois de mai, le 10 mai, elle aurait eu 100 ans. J'aurais bien voulu fêter ce moment avec elle. Elle est partie dans la paix, dans la sérénité. Elle n'était pas malade, mais au bout d'un moment, elle m'a dit « Michel, je souhaite partir ». Et le Seigneur l'a exaucé. Donc, on a eu un service d'inhumation vendredi après-midi. Merci à tous ceux qui étaient là pour entourer la famille. Et il y a un souci. Voilà. Ça va comme introduction? Est-ce que... Sinon, tu me donnes du mal à régler. Hein? Voilà, il ne faudrait pas que ça casse les oreilles. Voilà. Je vais prendre l'autre? Ok, tiens, tu m'enlèves ça. C'est pas grave. Merci en tout cas à tous ceux qui sont derrière la technique et qui font un travail super. On peut les remercier. Ils sont là depuis un moment ce matin. Tiens, voilà, tu m'enlèves tout. Quelle matinée, mes amis. Ça danse. Ça... Incroyable. Incroyable. Voilà, je vous apporte aussi les salutations de l'église de Momentum à Bordeaux. J'étais avec Patrice Martorano, le pasteur principal, et toute l'équipe pastorale de Bordeaux. Ils vous saluent bien. On prie pour eux, on prie pour que Dieu les conduise et les bénisse. Ils rayonnent sur toute une partie de Bordeaux, toute la périphérie. Ils font un travail remarquable. J'étais impressionné par leur investissement, par leur engagement, par leur cœur. Un travail vraiment de qualité. Ce matin, j'aimerais vous parler de la solitude. Un sujet délicat qu'on a parfois du mal à aborder, mais je voudrais en parler et je suis reconnaissant au Seigneur de ce qu'ici, on parle des vrais sujets, on parle de ce qui nous touche de près et on n'est pas dans des recettes, mais on est dans un chemin d'accompagnement et on souhaite vraiment accompagner chacun et chacune, c'est notre cœur, pour que vous puissiez aussi avoir des éléments de réponse pour vos préoccupations. L'isolement social et la solitude sont parmi les préoccupations majeures de notre temps. Et je lisais cette semaine un article publié par Cœur et AVC du docteur Scott Lear, un article qui s'appelle « La solitude, l'isolement et la santé cardiaque ». Et il arrive à la conclusion en disant « L'isolement social et la solitude peuvent augmenter les risques de maladie du cœur, d'AVC et de décès précoce. » L'isolement social, c'est la séparation physique d'une personne par rapport aux autres, et la solitude, c'est le sentiment d'être seul. On peut, par exemple, se sentir seul au milieu d'une foule, et on peut vivre seul sans se sentir isolé pour autant. À partir du moment où on est en contact avec les autres. Pour illustrer un petit peu mon propos ce matin, j'aimerais partir d'une histoire qui est connue dans l'Évangile, l'Évangile de Jean, chapitre 5. C'est l'histoire d'un malade qui se trouve auprès d'une piscine à Bethesda. Ça va nous servir de support, on ne va pas faire l'exégèse, mais en tout cas, on va se servir de cette histoire comme support. Jean, chapitre 5, verset 5. Là se trouvait un homme infirme depuis 38 ans. Jésus le vit couché, et sachant qu'il était malade depuis longtemps, il lui dit « Veux-tu être guéri ?» L'infirme lui répondit « Seigneur, je n'ai personne pour me plonger dans la piscine quand l'eau agitait, et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. » On a eu l'occasion de parler de cette histoire lorsqu'on a fait notre série sur l'Évangile de Jean, les miracles dans l'Évangile de Jean. Et je vous recommande particulièrement cette série, si vous voulez en savoir plus sur les miracles, sur la vie de Jésus et comment il donne du sens à ces miracles qui sont souvent des signes, des indicateurs qui montrent non seulement sa puissance, mais aussi son amour pour nous. Allez vers cette série, vous la trouvez sur Internet, sur notre site de l'EPI. Et ce qui a retenu mon attention dans cette histoire, c'est ce cri pathétique qui émane de cet infirme « Je n'ai personne ». Je n'ai personne. Et me semble entendre un cri monté de notre société contemporaine qui lui ressemble « Je n'ai personne ». Qui monte de cette ville qui s'appelle Bethesda. Bethesda, c'est la maison de miséricorde. En français, on a l'habitude de dire la miséricorde, c'est la corde que Dieu lance à la misère humaine. Et c'est vrai, et ça marche bien en français, miséricorde. Mais dans d'autres langues, on ne peut pas en dire autant. Moi qui suis de culture allemande, j'aime bien aller vers l'allemand, la traduction de Luther par exemple. Barmherzigkeit, la miséricorde. Ça va plus loin, ça nous parle d'une forme de compassion pour le malheur des autres, à laquelle s'ajoute la notion de générosité et de bonté gratuite. Et là, vous avez toute la définition du mot biblique. Une forme de compassion pour le malheur des autres, à laquelle s'ajoute la notion de générosité et de bonté gratuite. Et c'est exactement l'esprit dans lequel je souhaite aborder cette thématique de la solitude. Je n'ai personne. Et pourtant, il était entouré. Paul Gould, professeur de philo au séminaire théologique baptiste aux États-Unis, écrit ceci : « La mort de l'amitié authentique est l'une des marques de l'ère numérique. Les relations sont devenues superficielles et la conséquence n'est autre qu'une épidémie de solitude. » Eh oui, nous sommes des êtres relationnels et nous sommes conçus pour avoir une vraie vie sociale. Premier point ce matin, la solitude, c'est une réalité aux multiples visages. Elle touche tout le monde. Elle touche les enfants. Elle touche de nombreux jeunes en plein questionnement. Posez la question au lycéen aujourd'hui. Qu'est-ce que tu veux faire? Je ne sais pas. Alors on leur a concocté une plateforme numérique, Parcoursup, et ils sont paumés. Et les parents sont encore plus paumés. Je n'ai personne. Et il y a aussi de la souffrance. La solitude touche les veuves, les veufs. Puis il y a certaines périodes de l'année qui sont particulièrement douloureuses. Pour certains, Noël, c'est synonyme de joie, de réjouissance. Mais pour d'autres, c'est dramatique. Parce que il y a les manques, il y a les vides qui se font encore plus ressentir que d'habitude. Il y a des dates anniversaires et la mémoire de tous ces souvenirs qui fait mal. Elle affecte des personnes célibataires, des personnes en situation de séparation. On l'aperçoit aussi chez les personnes âgées, les personnes isolées de leurs proches, chez les personnes malades, les personnes handicapées, limitées. On la retrouve dans la rue, chez les personnes sans abri, les SDF. La solitude frappe à tous les étages de la société. On la rencontre chez les politiques, on la rencontre chez les cadres, on la rencontre chez les chefs d'entreprise, on la rencontre parmi les responsables, parmi les pasteurs, parmi ceux qui servent. La solitude est parfois associée à un sentiment de vide. Parfois, c'est l'impression de ne compter pour personne, de n'intéresser personne, de n'exister pour personne. Mère Teresa, qui s'est occupée de milliers de pauvres et qui a nourri des milliers d'hommes, de femmes, d'enfants à Calcutta, a dit un jour, la plus grande des pauvretés, c'est de n'exister pour personne. Je n'ai personne, personne à qui parler, personne à qui me confier. Mère Teresa, toujours elle, dira, il est plus facile de combler un estomac qui est vide que de combler un cœur qui souffre de solitude. Il existe toutes sortes de solitudes et certaines conduisent à des excès et vont parfois jusqu'à l'irréparable. Dans son livre « Oser parler » de Louis Evely, l'auteur raconte le suicide d'un infirmier de 21 ans. Il écrit « Dans un hôpital psychiatrique, un infirmier s'est suicidé pendant son jour de congé. Stupéfaction générale. Un malade, passe encore, mais un soignant. » C'est un hôpital moderne, parfaitement conçu, organisé, avec des réunions hebdomadaires de médecins, des employés, des malades, mais l'infirmier n'avait trouvé personne à qui se confier. Personne n'a deviné son projet, personne n'a perçu son angoisse. Il paraissait sans problème. Tout l'hôpital était atterré. Si on avait su, s'il nous avait dit. La solitude a beaucoup de visages. Parmi les plus familiers, l'ennui, la dépression, les addictions, l'exclusion, le désespoir, le vide et le suicide. Un psychiatre suisse du siècle passé, Carl Jung, a dit « La plus grande névrose de notre temps, c'est le vide. » La solitude peut être liée à des déceptions, à des échecs, peut-être aussi à des rêves qui ne se sont jamais réalisés. Dans nos bureaux, nous accueillons toutes sortes de personnes et nous sommes à l'écoute des besoins, des fardeaux, des soucis des uns et des autres. Et quelquefois, nous avons des confidences. Quelqu'un me disait, les moments où je me sens le plus seul, c'est le soir, après ma journée de travail. Quelqu'un d'autre, quand je rentre, personne ne m'attend. Tout est calme, c'est silencieux. Une autre personne me dira, mon appartement sent le renfermé, parce qu'il n'a pas été aéré de la journée. Quelqu'un d'autre, je suis seul à table, seul devant mon assiette. Je n'ai pas d'appétit, j'ai même pas faim. Quelqu'un d'autre m'a dit un jour, je crois que je vais mourir de solitude. Ben oui, la solitude, ça peut tuer. La solitude, c'est une réalité aux multiples visages. Deuxièmement, la solitude, eh bien, Dieu en parle et la Bible en parle. Dieu a un message pour chacun d'entre nous. Genèse au chapitre 2 et au verset 18 nous dit « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. » Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Oui, on est seul quand on est coupé de Dieu, quand on est éloigné de Dieu. Et c'est notre situation par nature, parce que nous sommes tous pécheurs. Nous sommes loin de Dieu et c'est le péché originel qui nous a séparés de lui. Le fait d'être éloigné de Dieu nous a aussi éloignés les uns des autres. Et le résultat, bien nous le vivons au quotidien. Nous vivons dans un monde égoïste, égocentrique, individualiste, du chacun pour soi. Dieu nous invite à sortir de notre isolement en faisant la paix avec lui. Et c'est pour cela que Dieu a envoyé Jésus comme médiateur, comme réconciliateur. 2 Corinthiens 5, 18 dira « Tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Jésus-Christ. » Jésus a connu le plus terrible, le plus épouvantable, la plus épouvantable des solitudes. Il a été abandonné de tous et même de Dieu, son Père. Connaissez cette fameuse phrase lorsqu'il est sur la croix, Matthieu au chapitre 27, verset 46. « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Je crois que sur la croix, Jésus a pris sur lui toutes les solitudes possibles et imaginables. Il a pris sur lui toutes les solitudes, depuis leur origine jusqu'à leur cause et jusqu'à leurs conséquences, pour que toi et moi, nous puissions sortir de notre isolement. Merci Seigneur. Le péché nous enferme, le péché nous isole. Mais Christ est un remarquable libérateur et peut nous sortir de nos enfermements. Ne serait-ce pas le moment peut-être de changer de vie, de te connecter à Dieu, de te laisser aimer par lui. Peut-être aussi d'intégrer sa famille, de te laisser aimer par lui. Il arrive que notre solitude soit parfois les conséquences de notre comportement. Notre façon de traiter les autres est parfois comme un repoussoir, comme le cactus qui s'y frotte, s'y pique. Et du coup, nous sommes parfois nous-mêmes à l'origine de notre propre souffrance. Tu as peut-être créé le vide autour de toi par des paroles blessantes, par une attitude, un comportement. Ne serait-ce pas le moment de te remettre en question et de reconnaître tes torts? La Bible dira, 1 Jean 1, verset 8, « Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous trompons nous-mêmes et la vérité n'est pas en nous. Mais si nous reconnaissons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de tout mal. » Oui, c'est le péché qui met un frein, une barrière, un obstacle entre Dieu et nous et entre les uns et les autres. Mais il est possible de sortir de cet enfermement. Parfois, on croit être seul. Dans un moment de fatigue et d'épuisement, de découragement, le prophète Élie s'écrit « Je suis resté moi seul. » Et Dieu va lui parler et lui dire « T'inquiète, il y en a 7000 autres qui sont encore avec moi et qui sont là et qui sont restés fidèles. » Marthe est en stress en préparant le repas lorsque Jésus arrive. Jésus avait l'habitude d'entrer dans cette famille, Marthe, Marie et Lazare. Leur frère était souvent là et à un moment de stress, Marie prépare le repas et elle dira à Jésus, Cela ne te dérange-t-il pas de voir que ma sœur me laisse seule pour servir ? Et Jésus lui dira, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Marthe n'avait pas saisi que le moment important, c'était d'être avec Jésus juste à ce moment-là, s'asseoir un moment avec lui, et que c'était plus important que même de manger, même s'il faut faire là à manger, mais c'était un moment important, et Marie avait choisi de rester avec Jésus. Et puis, il y a la solitude dont Dieu est l'auteur. Et je parle peut-être à quelqu'un ce matin, Dieu nous attend dans des moments de solitude, des périodes particulières. On a un exemple biblique dans la première partie de la Bible, dans l'Ancien Testament, avec Jacob. Vous trouverez son histoire dans Genèse au chapitre 32. Jacob, c'est le supplanteur, c'est-à-dire celui qui veut passer devant, qui veut toujours être le premier. Mais aussi, on constate dans sa vie qu'il a fait des combines et des affaires pas toujours très nettes. Et Jacob est un personnage qui a passé sa vie à fuir. Et arrive le moment où Dieu veut lui parler. Il a passé 96 ans à fuir. Moi, je trouve que Dieu a beaucoup de patience. Il a de la patience avec toi, il a de la patience avec moi. Mais arrive le jour, c'est incontournable. On est tous à la même école. Un jour ou l'autre, Dieu va nous coincer et dire, maintenant, c'est le moment. Je veux être seul avec toi. Je veux avoir un cœur à cœur avec toi. Et Jacob va rencontrer Dieu face à face, à 96 ans. Il va vivre un moment de solitude, face à face avec Dieu. Genèse 32, 25, Jacob resta seul. Et Dieu l'attendait pour le confronter à qui il était réellement. Et Dieu va lui dire, quel est ton nom ? Dieu savait très bien comment il s'appelait. Et Dieu sait très bien comment nous nous appelons. Mais qu'est-ce que ça veut dire ça ? Quel est ton nom ? Jacob est obligé de reconnaître, oui, je suis Jacob, je suis le supplanteur, je suis celui qui a fui, je suis celui qui a essayé d'échapper. Mais on n'échappe pas à Dieu, c'est impossible. Si Dieu a décidé de t'avoir, il t'aura. Il t'aura. Il a toujours le dernier mot. C'est pas la peine de... Non. Il aura toujours le dernier mot. Mais c'est un Dieu de paix, c'est un Dieu d'amour, c'est un Dieu qui veut ton bonheur, c'est un Dieu qui veut ton épanouissement. Et tu peux avoir confiance en lui. En fait, c'est même pas toi qui tiens sa main, c'est lui qui tient la tienne. Et il te conduit. Il te conduira dans un face-à-face, dans un cœur-à-cœur, les yeux dans les yeux. Et en étant avec lui dans sa présence, dans la solitude, tu vas découvrir vraiment qui tu es. J'ai passé des années à essayer d'oublier qui j'étais. Et il n'y a que quelques années, en allant aux États-Unis, j'y allais régulièrement ces dernières années, et à chaque fois que je mettais le pied sur le sol américain, il y avait là comme une boule. Et je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ça ? Alors c'est lié à mon histoire, c'est lié à mon passé, un papa que je n'ai jamais connu qui était américain, et à chaque fois que j'allais sur le sol américain, il y avait ici comme... Et d'une année à l'autre, j'essayais d'étouffer. Et j'essayais d'oublier ce qui se passait là. Alors c'est inexplicable. Le psy pourra le faire beaucoup mieux que moi. La catharsis. Et puis un soir, tout ça s'est remonté un petit peu comme la cocotte minute, vous savez, la vapeur qui sort. Et toute mon histoire est sortie. Tout mon passé, tout mon vécu. Et j'ai réalisé qu'au lieu d'étouffer tout cela, eh bien j'aurais mieux fait de laisser... sortir et pleurer un bon coup. J'ai pleuré au moins pendant une heure. Un peu comme Joseph, si vous connaissez l'histoire de Joseph. Pendant 20 ans, il était loin de la maison, loin de ses frères et sœurs.
Et puis quand ils viennent, il y a des choses qui montent en lui. Et la première fois, il étouffe. Il a fait comme moi. Et puis la deuxième fois, il n'a pas tenu. Il a craqué. Et j'ai craqué. Et j'ai pleuré. Et la Bible dit qu'il a été entendu toute la maison de Pharaon. Il a été entendu par toute la maison. Donc il n'a pas juste versé une larme. Il a vraiment pleuré. Il a sangloté. Et tout est sorti. Il a été libéré. Et à ce moment-là, il a pu rencontrer ses frères. Et il leur a pardonné. Et il a vécu un moment de réconciliation. Et je me suis réconcilié avec moi-même, avec qui j'étais. Dans cette soirée-là, j'ai dit oui, c'est ça. C'est mon histoire, c'est mon passé, c'est mon vécu. Je suis Michel. C'est cela. Et je crois que le Seigneur t'attend aussi dans un face-à-face, dans un cœur-à-cœur. Dans ce temps de solitude, et tu pourras déverser devant lui ton cœur. Et le résultat, c'est qu'il va te libérer. Il va te libérer. Ce que j'aime dans notre Église, c'est que nous ne venons pas avec des recettes, premièrement, deuxièmement. Non, on n'a pas de recettes, et je n'ai pas de recettes ce matin. Par contre, je peux te dire que la vie chrétienne, c'est un parcours, c'est un cheminement, c'est un processus de vie dans lequel le Seigneur t'accompagne. Ça, c'est vrai. Quelquefois, ça va très vite. Quelquefois, ça prend du temps. Moi, il m'a fallu des dizaines d'années pour comprendre. Mais j'ai compris. Et je souhaite que tu comprennes aussi. Jacob a vécu vraiment un face-à-face. Il le dira, j'ai vu Dieu face-à-face et ma vie a été sauvée. On peut traduire aussi, ma vie a été guérie, ma vie a été libérée. Il voulait être béni, mais à sa manière. Et dans cette confrontation, Dieu va le bénir, mais à sa manière. Et il va garder une trace de cette rencontre, et sa vie ne sera plus jamais la même. Dieu va le frapper sur le côté, la hanche, et il va boiter toute sa vie, comme pour se souvenir de ce moment de seul à seul avec Dieu. Il dit, oui, je suis Jacob, tu m'as libéré. J'ai eu la joie de rencontrer un homme qui s'appelle Peter Scazzero, c'est un pasteur de l'église de la communauté Nouvelle Vie à New York. Il a écrit plusieurs livres et un livre sur les bienfaits du silence et de la solitude. Et il nous a raconté qu'à un moment donné, il a eu à cœur de visiter des monastères et de se prendre du temps pour vivre des temps de solitude et de silence. Et ça donnait lieu à un livre qu'il a intitulé « Les bienfaits du silence et de la solitude ». Et il écrit quelque chose de très intéressant. Écoutez bien, il dit « La raison pour laquelle nous cherchons à fuir la solitude voulue par Dieu, c'est parce qu'on a peur de découvrir qui on est vraiment. » La raison pour laquelle nous cherchons à fuir la solitude voulue par Dieu, c'est parce qu'on a peur de découvrir qui on est vraiment. Qui est-ce que je suis vraiment bien ? Un être blessé, un être déchiré, un être déformé, un être sale, cassé, qui a besoin de s'abandonner entre les mains d'un Dieu plein de compassion et plein de miséricorde. David l'a dit à un moment donné, quand il a fait une grosse bêtise dans sa vie, Dieu l'avait puni. Et il lui a demandé de faire un choix. Et dans ce cri de détresse intérieure, il dira « Oh, que je tombe entre les mains de Dieu !» Parce qu'il connaissait Dieu, il savait qu'il était un Dieu plein de compassion et de miséricorde. Alors la Bible nous parle aussi de solitude féconde. Et dans la Bible, le mot « solitude » est souvent associé à la notion de désert. Et le désert est identifié comme un lieu de préparation, de formation, même de transformation. Moïse a passé 40 ans dans le désert, avant de se présenter devant le Pharaon et de devenir le libérateur d'Israël. Élie a vécu un temps à part dans le désert, avant d'affronter les faux prophètes. Jean-Baptiste a passé une partie de sa vie dans le désert. Et il a appelé le peuple à la repentance et à préparer la venue de Jésus, le Messie. L'apôtre Paul a passé 3 ans dans le désert d'Arabie avant de pouvoir débuter son ministère public. Jésus a été 40 jours dans le désert avant de commencer aussi son ministère. Il a su garder toujours l'équilibre entre ministère public, présence publique et aussi les moments de solitude avec Dieu, son Père. Alors, c'est incontournable, un mot sur le célibat. Être célibataire, ce n'est pas forcément un drame. C'est souvent une souffrance que nous voulons prendre en compte et vis-à-vis de laquelle nous voulons vraiment être sensibles. Et cette souffrance est parfois même accentuée par des réflexions de la part d'un entourage plus ou moins bienveillant. Certains vivent le célibat plus ou moins bien, mais n'envisagent pas de se marier. Et j'en connais d'autres qui attendent, qui espèrent ou qui désespèrent de pouvoir se marier un jour. Ce qui donne parfois lieu à toutes sortes de tentations, faute de trouver un conjoint dans les milieux chrétiens. Ils cherchent ailleurs, parfois sur Internet. Alors il n'y a aucun jugement de notre part, parce que nous essayons d'accompagner ces souffrances. Mais ils finissent par déchanter. Comme disait un garçon qu'on accueillait régulièrement à la maison, il disait « ce n'est pas le repas que je m'attendais » et on pourrait dire « ce n'est pas la vie que je m'attendais ». Souvent, il y a du déchantement. Et puis, il y a ceux qui vivent leur célibat de manière sereine et qui sont heureux et qui n'échangeraient pas leur vie. Je connais bon nombre de gars et de filles qui me disent « jamais je n'aurais pu accomplir ce que j'ai fait si j'avais eu un conjoint ou une famille ». Bien sûr, il y a des coups de blues, des moments de cafard, de découragement. Mais d'un autre côté, j'ai tellement de compensation. Et là, je pense à une femme qui s'appelle Claire-Lise de Benoît, une famille chrétienne. Claire-Lise de Benoît était restée célibataire toute sa vie. Elle a écrit un livre sur le célibat, dans lequel, et en partageant avec elle, c'est une amie à Evelyne et moi, en partageant avec elle, elle nous disait, au début c'était difficile. Je ne pouvais pas concevoir de rester célibataire. Et puis j'ai compris ce que Dieu attendait de moi, le chemin qu'il me préparait. Et j'ai accepté mon célibat. Non sans peine, encore une fois. Et elle a eu l'occasion de faire 40 années de colonies de vacances, dans lesquelles elle a été comme une maman pour les enfants. Et elle a touché avec l'évangile. Et elle a eu un service remarquable pour des milliers d'enfants qui se sont donnés au Seigneur et qui ont vécu vraiment des temps forts dans ces colonies de vacances. Et pour d'autres, c'est le contraire. Personnellement, je n'aurais jamais pu servir Dieu de la manière dont j'ai pu le faire si je n'avais pas eu Evelyne à mes côtés. Alors quand Paul parle du célibat et du mariage, il emploie un mot particulier. C'est le mot « don ». 1 Corinthiens 7, verset 7. Il dit tout d'abord « je voudrais que tous soient comme moi ». Alors là, ici, dans le contexte, ce n'est pas un absolu. Il est en train de nous dire « j'aimerais bien que vous soyez libres comme moi pour servir la cause de l'Évangile ». Parce qu'il y a une disponibilité lorsqu'on est célibataire que l'on n'a plus lorsqu'on est marié et qu'on a des enfants, une famille. « J'aimerais bien que vous soyez libres comme moi ». Et puis, quand on regarde la vie intense de l'apôtre Paul, on comprend pourquoi. C'était tout à fait incompatible avec une vie de famille. toujours sur la route, ou bien en mer, parfois en prison, parfois dans les naufrages. Il a eu toutes sortes d'aventures. Et sa vie était tout à fait incompatible avec une vie de famille. Mais lorsqu'il parle donc de célibat et de mariage, il utilise le mot « don ». Il dira « Chacun tient de Dieu un don particulier, l'un d'une manière, l'autre d'une autre ». Et le mot « don » ici, c'est le mot « charisma », que vous connaissez maintenant au travers de l'étude que nous avons faite sur les dons spirituels tout récemment. Il paraît ce mot-là, « charisme », « don spirituel », « don de grâce », « cadeau », « gratuit ». C'est le même vocabulaire. Pour l'un, c'est le célibat, pour l'autre, c'est le mariage. Autrement dit, si l'apôtre Paul nous parle de cela, il est en train de nous dire, si tu es conduit à te marier, c'est un don de Dieu. Si tu es conduit à rester célibataire, considère-le comme un don de Dieu. Je trouve que c'est une parole qui est un petit peu difficile à entendre, mais c'est ce que dit l'apôtre Paul. Dans l'un comme dans l'autre cas, Dieu va t'accompagner et te donnera toutes les ressources dont tu as besoin. C'est cela qu'il est en train de nous dire. La Bible n'établit aucune supériorité de l'un par rapport à l'autre. Le mariage et le célibat sont exactement sur le même pied d'égalité. Quelqu'un voudrait te susurrer et te murmurer à ton oreille que tu es resté sur la touche. Tu n'as pas su t'y prendre. Tu as raté ton affaire. Mais Dieu a une autre opinion. Et c'est celle qui compte. Quoi qu'il en soit, nous aurons toujours une part de solitude à assumer. Les meilleurs conjoints, les meilleurs amis ne pourront pas vous combler entièrement. Parce qu'ils ne sont que des êtres humains, imparfaits. C'est impossible de vivre sans solitude. Que tu sois en bonne santé ou que tu sois malade, la santé parfaite est encore à venir. Que tu aies des biens ou que tu n'en aies pas, les plus grands trésors sont encore à venir. Je vais appeler les musiciens à revenir sur l'estrade. Que tu sois marié ou que tu sois seul, le plus beau de tous les mariages est encore à venir. Ce sont les noces de l'agneau, qui sont en train de se préparer. Toutes nos aspirations les plus profondes, le bonheur, le besoin d'aimer, d'être aimé, le sentiment d'appartenance, de sécurité, etc., ne seront comblés que lorsque nous serons dans sa présence. Et je pense que c'est bon de mettre vraiment notre vie dans cette perspective. Nous ne sommes que de passage sur la terre, avec toutes ces imperfections liées à l'arrivée du péché dans le monde. Et puis troisièmement, j'aimerais vous laisser quelques idées à emporter. Encore une fois, je n'ai pas de recette. Mais l'avantage de cette matinée, c'est déjà qu'on parle de la solitude. Et c'est déjà beaucoup. On en parle. On la prend en compte. Quelques idées. Une première idée, c'est de multiplier les contacts avec les autres. Si vous ne pouvez pas voir les gens en personne, il y a le téléphone, ou bien la vidéo, conférence, la visio. J'ai été frappé pendant le confinement de ce que nos aînés m'ont dit. Ils m'ont dit, Michel, ne t'inquiète pas, on a le téléphone et on a notre Bible. Et on s'appelle les uns les autres, et on s'encourage mutuellement, et on est en lien les uns avec les autres. On est en relation, on n'est pas seul. Ils m'ont encouragé. Ce n'est pas tant le nombre de connexions qui compte, mais c'est la qualité des échanges qui fait la différence. Et dans ce domaine, nos aînés ont été remarquables. Ensuite, vous pouvez vous engager dans le bénévolat. Ce dont la santé le permet. Parce que le meilleur moyen d'arrêter de tourner en rond, c'est commencer à s'occuper des autres. Il y a des dizaines d'études qui montrent que l'activité sociale améliore la santé et le bien-être général. Quand le moral va, tout va. C'est vrai ou pas? Ouais. On se sent seul quand on est coupé de ceux qui servent. Si vous voulez servir, prenez contact juste au point accueil. Laissez vos coordonnées, votre nom. On s'occupe de tout. C'est vrai ou pas? On s'occupe de tout. Laissez-vous guider, laissez-vous encourager. Mais ne tournez pas en rond et ne restez pas seul. Si vous êtes valide, si vous avez du temps, si vous avez de la disponibilité, priez. Dites, Seigneur, comment est-ce que je pourrais utiliser ma disponibilité? Et Dieu va vous montrer. Et si c'est dans l'église, n'hésitez pas, prenez contact. On va s'occuper de vous, on va parler avec vous, on va prier avec vous et on va trouver des choses à faire. Et si ce n'est pas dans l'église, ça sera peut-être dans la périphérie. Nous travaillons en partenariat avec d'autres œuvres, d'autres associations et d'autres églises. Notre église, l'EPI, n'est pas appelée à tout faire. Et on ne peut pas tout faire. Mais il y a d'autres partenaires qui font et avec lesquels on est en contact, en lien, en connexion. Et puis, j'ai découvert récemment quelque chose de très intéressant, c'est que chanter ou écouter de la musique peuvent développer quelque chose de fort. Le fait de chanter ensemble, ou même d'écouter de la musique, libère l'ocytocine. L'ocytocine, c'est une hormone, c'est l'hormone de l'âme, entre autres, l'hormone de l'amour, l'hormone de la confiance, et une hormone à laquelle on pourrait donner le nom de koinonia, hein, parce qu'elle favorise les connexions les uns avec les autres. Le simple fait d'écouter de la musique, à plus forte raison lorsqu'on chante ensemble, évidemment, on chante pour Dieu, on loue le Seigneur, on vient pour lui, mais ça libère cette hormone qui est facilitatrice d'échange, de connexion qui facilite le relationnel. Cette ocytocine vise à me connecter aux autres. Comme quoi Dieu a tout prévu pour que nous puissions être en lien les uns avec les autres. Avec Evelyne, on a construit des relations de qualité avec nos voisins. Et quand je suis en déplacement, elle n'est pas seule. Elle est bien entourée. La Bible dit qu'un voisin proche, c'est mieux qu'un frère qui est éloigné. Et c'est vrai. Et les voisins peuvent compter sur nous. Mais nous pouvons compter sur eux. Et Evelyne est rassurée. Je reviens aux malades de la piscine de Bethesda. Et ce matin, j'aimerais nous laisser avec cette question. Jésus pose une question aux malades. Veux-tu être guéri? C'est fort, hein? Ça fait 38 ans qu'il est couché. Et on pourrait dire, mais bien sûr qu'il veut. Est-ce que c'est aussi évident que cela? Pourquoi Jésus pose vraiment la question? C'est parce qu'il a développé des mécanismes, des fonctionnements qui font que Jésus est obligé d'aller le chercher. Et ce que j'aime avec le Seigneur, c'est qu'il vient nous chercher, nous pousse dans nos retranchements, dans ce seul à seul, dans ce face à face et ce cœur à cœur. Veux-tu être guéri? Peut-être qu'il y a de l'amertume qui s'est développée, avec les frustrations qui se sont succédées, avec ces rêves qui se sont brisés. Peut-être ton cœur a-t-il été affecté. Et le Seigneur t'attend ce matin, te disant, veux-tu être guéri? Et la deuxième chose qu'il lui dit et qui m'a frappé, lève-toi, prends ton brancard et marche. Alors, il y a une part aussi à faire de notre côté. Le Seigneur est avec nous, il nous accompagne, mais il ne nous mâche pas tout le travail. À un moment donné, il va falloir que tu te lèves. À un moment donné, il va falloir que tu prennes tes affaires et que tu te mettes à marcher. Moi, j'aime ce Seigneur qui fait de nous des hommes et des femmes debout. Il était couché depuis 38 ans. Je ne sais pas depuis combien de temps tu es couché. Mais un jour dans ma vie, moi je me suis levé. J'ai pris mes affaires, j'ai dit, je vais marcher. Et je ne le regrette pas. Et ce matin, je veux vraiment t'inviter à répondre à cette question. Veux-tu être guéri? Alors lève-toi, prends tes affaires et marche. On va prier ensemble. Seigneur, j'essaie d'aborder cette thématique avec toute la délicatesse, la douceur possible. C'est un sujet difficile. Tu viens nous chercher, Seigneur, tu nous pousses dans nos retranchements. Mais notre salut, notre délivrance, notre guérison passe par ce temps d'affrontement où on fait face vraiment à qui on est. Merci parce que tu nous aimes trop pour nous laisser comme nous sommes. Il y a eu du péché, alors Seigneur, nous te demandons pardon. Pardon pour l'amertume. Pardon pour la rancœur. Pardon, Seigneur, pour toutes ces frustrations qui ont débordé sur toutes sortes de choses mauvaises. Pardon, Seigneur. Pardon. Merci parce que tu es là, non pas pour nous juger ou nous condamner, mais tu viens pour nous sortir de notre enfermement, de notre isolement, et pour nous permettre de vivre un temps de libération. Merci parce que tu nous interpelles ce matin. Merci pour ta tendresse, ta délicatesse, ton amour, ta miséricorde à notre égard, cette bonté gratuite. Merci pour cette forme de compassion qui te pousse à t'occuper de moi. Merci Seigneur. Alors avec toute la grâce de Dieu, je veux me lever. Je veux prendre mes affaires et je veux me mettre en route. Et si tu as comme un écho dans ton cœur ce matin, s'il y a, alors que les yeux sont fermés, alors qu'on est dans ce temps de prière, tu sens le besoin même physiquement de te lever, fais-le à ta place et dis au Seigneur, moi je veux être guéri. Seigneur, moi je veux sortir de mon isolement, je ne veux pas rester comme je suis. Je comprends Seigneur que tu veux m'accompagner, je comprends que c'est difficile, c'est douloureux, mais je veux m'en sortir. Et je veux changer d'attitude, je veux me repentir, c'est ça que ça veut dire, changer d'attitude, changer de mentalité, changer d'état d'esprit. Je veux Seigneur, ce matin je me lève, je prends mes affaires. Et je me mets en route. Si quelque part il y a un écho dans ton cœur, je t'invite à te lever à ta place. À crier à Dieu, dis oui Seigneur, je veux être guéri. Je veux être guéri. Le malade ne l'a pas dit, il a juste dit je n'ai personne. Mais ce matin on ne peut pas le dire parce que nous avons quelqu'un. Nous avons quelqu'un qui nous a précédés dans toutes les solitudes. Il a pris sur lui à la croix. Celui qui était innocent, celui qui était sans péché est devenu péché. Il a pris toute ma saleté, il a pris tout mon péché, il a pris toute mon horreur. Il en est sorti vainqueur, il est ressuscité, il est vivant. Et ce matin, il nous tient par la main pour nous emmener hors de notre isolement. Seigneur, je te remercie pour celles et ceux qui se tiennent debout devant toi. Tu vois leur souffrance, tu vois leur douleur, tu vois leur chagrin, tu vois la peine. Seigneur, tu sais tout cela, tu nous connais tellement. Mais tu viens saisir la main de chacun et permettre qu'ils sortent de leur isolement. Merci parce qu'ils sont debout, ils se lèvent. Merci parce qu'ils prennent leurs affaires. Et merci parce qu'avec toi, ils vont cheminer de victoire en victoire, de guérison en guérison, de délivrance en délivrance. À toi, Seigneur, toute la louange et toute la gloire. Amen. 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 Merci.
Oh, tu es là, et quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu agiras encore. Et quand je ne le vois pas, tu es là. Et quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu agiras, tu... Et quand je ne le vois pas.
vois pas, tu es là. Et quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu agiras une dernière fois. Et quand je ne le vois pas, tu es là. Et quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu agiras encore. Tu traces un chemin au pied des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. C'est ce que tu es. Tu traces un chemin au pied des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es.
Ça fait très longtemps que tu es dans la tristesse à cause de ce que tu traverses suite à ta séparation. Et le Seigneur t'invite à te réjouir ce matin parce que tu as une famille. Les frères, les sœurs, c'est ta famille. Réjouis-toi avec eux. Le Seigneur veut communiquer sa joie en toi. Réjouis-toi de ce que ton nom est inscrit dans le livre de vie. Réjouis-toi de ce que le Seigneur te prépare une place là-haut et qu'il veut que tu sois avec lui. Ne sois pas dans le jugement de ceux qui communiquent la joie. Tu les crois exubérants, mais regarde-les et dis-toi que ils t'aiment et ils veulent communiquer aussi sa joie en toi. Amen.
Je pense que cette parole va directement dans le sens de ce que Michel a prêché, et puis on va juste reprendre ce chant. Peut-être ça parle à une personne, à plusieurs, on ne sait pas. Mais je pense qu'il y a un appel à se lever, prendre son brancard et puis à louer Dieu dans notre solitude, dans notre souffrance. Donc c'est ce qu'on va faire, on va reprendre ce chant et déclarer qui est Dieu et du coup qui nous sommes en lui.
Oh, tu traces un chemin au père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Un chemin au père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu... Oui, c'est ce que tu es. C'est ce que tu es. C'est ce que tu es. Oh oui, Seigneur, c'est ce que tu es. C'est ce que tu es. Sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu agiras encore. Et quand je ne le vois pas, tu es là. Et quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu agiras encore.
Amen. Quel message d'encouragement. Quel message d'encouragement. N'hésitez pas à aller au bout de ce que peut-être vous avez vécu avec Dieu ce matin. Puis on a justement un espace qui s'appelle l'espace écoute et prière, qui se passe juste ici, la zone du piano à queue. Il y a des gens qui sont là pour vous écouter et pour prier avec vous. C'est une force de faire preuve d'humilité et puis de reconnaître qu'on a besoin d'aide parfois. Et c'est exactement le message de Michel ce matin, donc n'hésitez pas, il y a des personnes qui vont venir, puis on va juste demander à ceux qui sont dans cette zone de bien vouloir libérer pour garder l'intimité, puis laisser les gens pouvoir être à l'écoute, et puis aussi prier pour eux. Donc encore une fois, gardez ce message à cœur, méditez-le encore dans les prochains jours, et puis on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau message, et puis des nouvelles relations fraternelles entre nous. C'est bon pour vous ? Et notez, dimanche 3 décembre, l'épi fait son marché, on retient ça. Ok, bon dimanche à tout le monde, et puis n'hésitez pas, relationnez ensemble. Bon dimanche.